dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Qu'est-ce que le Digital Labour, au-delà d'une question que nous nous posons quasiment tous autour de la table en cet instant? C'est le titre d'un petit livre qui paraît aujourd'hui, signé par notre invité Antonio Casilli. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue Antonio Casilli. Vous êtes sociologue, maître de conférences en humanité numérique à Télécom Paris-Tech et chercheur au Centre Edgar Morin de l'École des hautes études en sciences sociales. Et ce petit livre est en fait le fruit d'un dialogue organisé par l'INA avec Dominique Cardon. Pour dialoguer et vous interroger à nos côtés, nous avons proposé à Michel Lallemand de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Michel Lallemand, on se souvient que vous étiez venu à la place d'Antonio Casilli il y a quelques mois nous parler de votre dernier ouvrage, L'âge du fer, Hacking, travail, anarchie, paru au Seuil. Vous êtes professeur titulaire de la chaire d'analyse sociologique du travail, de l'emploi et des organisations au CNAM, et vous avez gentiment accepté de venir aujourd'hui autour de la table pour dialoguer et interroger donc Antonio Casilli. Je dois vous faire part, Antonio Casilli, d'une sorte de cheminement qui fut le mien quand j'ai découvert votre ouvrage. Je me suis dit, banco, c'est très bien en ce moment. Manuel Valls lance un grand chantier de réécriture du code du travail d'un côté. Hier, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, présente les grandes lignes d'un nouveau projet qu'il a intitulé Noé, hashtag Noé d'ailleurs, c'est le nom de code, sur les nouvelles opportunités économiques ouvertes par le développement massif du numérique. Je me suis dit, ben voilà, le digital labor, ça n'est rien d'autre que nous montrer comment aujourd'hui, en 2015, Internet a changé radicalement notre façon de travailler. Et puis, on ouvre le livre et on se rend compte que pas du tout. C'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que le digital labor, Antonio Casilli?
Justement, c'est un parcours théorique et un parcours même de recherche que moi-même j'ai dû effectuer quand, avec d'autres collègues, je me suis penché sur la question de comment les plateformes numériques impactent le travail. Et on s'est rendu compte que aujourd'hui, on voit l'émergence de nouvelles formes de travail qui sont un travail implicite des plateformes, c'est-à-dire un travail qui ne dit pas son nom. Un travail qui est fait, par exemple, de des tâches qui sont souvent pas reconnues comme des formes de travail. Je pense, par exemple, aux plateformes collaboratives, à la Uber, à Airbnb et d'autres qu'on connaît. Mais aussi des nouveaux services de micro-travail comme Amazon Mechanical Turk, dans lesquels parfois des centaines de milliers, parfois des millions de personnes réalisent des petites tâches qui rassemblent énormément à ce que tout le monde fait sur les réseaux sociaux d'Internet ou à chaque fois qu'on utilise un moteur de recherche. Par exemple, laisser des commentaires, par exemple, taguer des contenus, donc mettre des labels, ou par exemple, regarder des vidéos, et ces petites tâches sont payées, sont micro-payées, donc reçoivent une micro-rémunération. Quelle est la différence entre les tâches réalisées sur ces plateformes de micro-travail et ce que chacun d'entre nous réalise sur les plateformes comme Facebook, Google et compagnie? Et bien finalement, on se rend compte qu'il y a une énorme continuité, voire qu'il y a une similarité énorme entre ce que n'importe quel utilisateur réalise chaque jour dans sa vie quotidienne, à chaque fois qu'il regarde une vidéo, qu'il laisse un commentaire, qu'il publie une photo de son chaton, qu'il joue du piano, peu importe, mais qui à chaque fois, ces activités nous mettent face à une extraction de valeur par les grandes entreprises d'Internet. Une extraction de valeur qui passe évidemment par le fait que nous produisons des données personnelles, on revient à ce qu'on disait à propos de Facebook, de ses cookies et de ses questions de vie privée, et le fait que finalement, non seulement ce que nous mettons en ligne, mais notre graphe social même, c'est-à-dire nos communautés d'amis, nos listes d'amis même, sont monétisées, sont transformées dans une source de valeur pour ces entreprises. Et de cette manière-là, on se retrouve à regarder un scénario complètement différent quand on s'interroge sur le travail à l'heure du numérique, parce qu'on est en train de sortir de la vision classique du travail ancré à un lieu de travail, à un emploi formel, et de reconnaître qu'il y a du travail partout, qu'on a du travail même dans des activités, dans des moments de notre vie et de notre journée dans lesquels on croit faire autre chose.
Oui, mais il n'est pas payé ce travail.
Et c'est une juste question, voilà, justement. C'est un travail qui n'est pas payé, mais il faudrait se poser la question. Parce que il y a certaines tâches qui ne sont pas rémunérées, je pense dans ce que j'ai dit à propos de n'importe quel utilisateur, de n'importe quelle plateforme, mais il y a un continuum entre ces tâches non rémunérées et des tâches qui commencent à être rémunérées. Micro-paiement ou parfois des reconnaissances en termes vraiment d'une rémunération véritable.
Mais c'est très difficile de faire la part des choses, parce que vous essayez de donner des exemples d'activités qui sont de l'ordre du travail. travail. Mais si on vous écoute, Antonio Casilli, cliquer, c'est travailler. Or, on fait bien une différence, enfin encore aujourd'hui, entre le travailleur et le consommateur. Le nombre de fois où, dans notre journée, on clique, mais pour consommer quelque chose, ne doit pas être confondu avec le nombre de fois où on clique pour travailler. Par exemple, quand on poste un billet de blog, on peut, surtout sur un site, par exemple un journal en ligne, on peut considérer que c'est un travail et qu'il devrait être rémunéré, qu'il ne l'est peut-être pas. Ça n'est pas du tout la même chose que cliquer pour aller consommer quelque chose, voilà, par exemple.
Vous dites bien, et là vous pointez effectivement le grand enjeu théorique du digital labor, le fait de reconnaître qu'aujourd'hui il y a une superposition entre le rôle de consommateur et le rôle de producteur. Et ceci, on le dit en réalité depuis plusieurs décennies. Non, il ne faut pas remonter trop en arrière dans le temps pour se rappeler que dans les sciences sociales, on insiste beaucoup désormais sur l'idée du prosumer, donc du consommateur en tant que producteur. Et que, si on revient un peu plus en arrière dans le temps, on s'est toujours efforcé de pointer, par exemple en sociologie du travail, un ensemble d'activités qui sont des activités reconnues comme du travail invisible ou du travail gratuit. Par exemple, il faut repenser à toutes les grandes luttes pour la reconnaissance du travail domestique, qui était lui aussi reconnu comme un travail fait par amour, fait par un geste de volonté, mais qui en fait contribuer à la production d'une valeur qui était une valeur sociale. Et donc, de ce point de vue-là, reconnaître qu'aujourd'hui, la production de valeur passe aussi par les dispositifs que nous avons dans nos poches, c'est-à-dire nos smartphones ou alors les plateformes sociales, c'est une manière de faire revenir au devant de la scène et de réancrer dans la société et dans le politique la question du travail
invisible. C'est un nouveau combat social.
Comment ?
C'est un nouveau combat social pour vous.
C'est décidément un nouveau combat social, oui.
Michel Lallemand.
Oui, je suis ravi de pouvoir discuter avec Antonio. Alors, je dois dire, pour compléter le décor que vous avez commencé à poser, je crois qu'il y a deux autres peut-être éléments qu'on pourrait évoquer pour dire à quel point ce livre participe d'un débat qui est en train de s'ouvrir. Il y a le rapport Metling, qui est paru il n'y a pas très très longtemps.
Du nom du DRH d'Orange.
Exactement.
Sur la transformation numérique et la vie au travail.
Voilà, donc je pense va compter aussi dans les débats à venir. Un des enjeux de ce rapport, c'était notamment de toucher du doigt les difficultés pour certains travailleurs aujourd'hui de se déconnecter. Et donc, on voit bien, avec des perspectives complètement différentes, on est bien d'accord avec celles qui sont développées dans cet ouvrage, la question de la connexion et de sa signification sociale. Je pense également à une note qui vient de sortir le mois dernier du Conseil d'analyse économique sur l'économie numérique qui pose d'autres questions relatives à l'emploi sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de venir. Et donc, il y a une question que je voudrais poser par-delà ce grand débat. On voit donc des positionnements qui apparaissent. Le choix que fait Antonio Casilli, c'est de regarder les choses par le travail avec un postulat extrêmement fort sur lequel on pourra certainement rediscuter, mais c'est ce qui est travail, c'est ce qui contribue à produire de la valeur. C'est ça qui permet de comprendre, je pense, la position que vous défendez. Alors du coup, de l'extérieur, je dirais, il y a une espèce d'énigme qui apparaît. En quoi... Comment peut-on comprendre les chaînages intermédiaires entre le fait de cliquer sur Facebook et de voir des valeurs énormes apparaître sur le marché? Je pense, par exemple, pour donner un ordre grandeur, WhatsApp a été vendu en 2014 pour l'équivalent de 22 milliards. Et on a du mal à voir le lien entre le fait de cliquer et ces enjeux monstrueux en termes de valeur.
Antonio Casilli.
Il y a une réponse d'abord concrète. Si, pour revenir à cet exemple de WhatsApp, la valeur de 400 millions d'utilisateurs de cette application est aussi, et sa valeur de rachat est aussi liée au croisement possible par le racheteur, en l'occurrence Facebook, avec sa propre base de données. Donc il y a, si vous voulez, un effet de croisement, d'appariement de données qui fait la valeur concrète dans ce cas précis. Mais plus en général, le glissement auquel on a assisté dans le véritable régime de production de la valeur aujourd'hui a été décrit par l'économiste Laurent Gilles comme le passage de l'économie des biens à l'économie des liens. Aujourd'hui, ce qui est vendu sur ces plateformes est le lien social même, ou plutôt les liens sociaux même qui existent entre toutes les personnes qui participent à cette énorme conversation en ligne. Et après, effectivement, on peut dire que c'est du véritable travail, le fait de cliquer, dans la mesure où certains critères sont respectés. Le premier critère, vous venez de l'énoncer, c'est le fait de produire de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu non seulement par les entreprises, mais d'une manière grandissante par les utilisateurs même. Il y a une prise de conscience massive, globale, de cela. Il y a un autre critère qui, à mon avis, est très important, et c'est le critère que ces activités ne sont pas libres. Ces activités sont tracées. Et là, on revient à la question du traçage et du tracking, etc. C'est des activités que, comme toute activité travaillée, sont soumises à une forme de métrique de la production. Finalement, on ne peut pas tout simplement cliquer, mais il faut aussi faire prendre en compte, par exemple, tous les indicateurs de notre performance en ligne. Combien d'amis, combien de retweets, combien de compteurs de réputation, d'étoiles, de commentaires on reçoit, et ainsi de suite. Ce n'est pas une activité libre. Et troisième point, et ça, c'est, je cherche à les énoncer, ces critères dans le livre, troisième point, c'est que ces activités sont encadrées d'un point de vue contractuel. Les conditions générales d'usage de ces plateformes, finalement, même si elles ne sont pas un contrat de travail, elles établissent, tout comme les contrats de travail, que faire avec le fruit de notre clic. Donc, en l'occurrence, si je clique ou si je mets en ligne des produits ou des contenus ou des commentaires, finalement, je suis en train de produire de la valeur et cette valeur est appropriée par la plateforme.
Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat, là?
Dans le contrat, il y a tout un ensemble de conditions et de règles d'utilisation de ces plateformes ou ces dispositifs. Et ce qui est dit, par exemple, dans le 100% de ces contrats-là, est que les données et les contenus que je mets en ligne subissent une certaine monétisation de la part des plateformes mêmes. Donc, effectivement, là, on parle de fruits de cette activité qui est une activité laborieuse, productive, et de qui s'approprie le fruit de ces activités mêmes.
Michel Allemand ?
Oui, on voit bien à travers tout ce que vous décrivez le fait que nous sommes sur un moment, nous vivons un moment où les choses vraiment changent à toute vitesse. Alors, on voit bien comment le numérique, notamment, perturbe les formes d'organisation traditionnelles du travail dans les entreprises déjà. C'est assez étonnant de voir le nouveau succès, par exemple, du télétravail, qui est une forme d'application très concrète du numérique. Vous pointez du doigt ce que vous disiez à l'instant, ce qu'on pourrait appeler le report vers les consommateurs de toute une série de tâches. On pense par exemple à TripAdvisor qui fait que maintenant, en tant que consommateur, on va donner des avis sur tel hôtel, sur tel voyage, etc. Ce qui a tendance à changer la donne dans le rapport au... Et puis, je pense aussi à tout... Uber en est bien un bon exemple, de la concurrence des professionnels, entre guillemets, par toute une série de gens qui vont s'improviser, en tous les cas, revendiquer une forme d'activité qui était auparavant fabriquée par des professionnels. Alors, la question qui vient, c'est qu'on voit que vous êtes quand même assez fasciné par la technique, et je dirais qu'il y a une forme de symétrie paradoxale.
C'est dans, une manière dans votre de me dire que je suis geek.
Non, mais je peux revendiquer aussi cette étiquette, ça me dérange pas, mais là où j'ai une question, c'est la suivante. C'est-à-dire que vous avez une tonalité extrêmement pessimiste quand même sur l'usage de la technique, en opposition d'une certaine manière, et parfois bienvenue, à une forme de naïveté technologique de ce qui pouvait être aussi le mouvement geek. Je pense par exemple au mouvement hacker, dont un des postulats de fond, c'était de dire « la technique nous émancipe ». Et vous dites exactement l'inverse. Mais est-ce que dans les deux cas, il n'y a pas une survalorisation du rôle de la technique au dépens, par exemple, les entreprises n'ont pas attendu le numérique pour flexibiliser le temps de travail, par exemple. Voyez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de focale qui donne trop d'importance à la technique?
Antonio Casilli.
Moi, je vous remercie pour cette question qui me permet d'ailleurs de préciser ma position qui n'est pas du tout pessimiste. Ma position est une position critique. Et si je devais me positionner, par exemple, par rapport à une certaine idéologie hacker pirate, peu importe le label qu'on utilise, je dirais tout simplement que ce que je critique, c'est justement la réappropriation, voire l'exploitation de cet énorme élan de générosité, médiatisé évidemment par la technologie, qui surgit à partir des communautés d'Internet et des communautés des créateurs. La question actuelle est qu'on n'est pas face à un Internet qui est devenu un cauchemar orwellien, mais un Internet qui est devenu, et qui a toujours été en fait, à mon avis, un champ de tension entre plusieurs positions différentes. Les positions des géants du net, ou même des petits géants du net, comme certains de chez nous, en effet, est contrastée toujours, comme type de contre-champ, cette énorme puissance des collectivités d'usagers, des commons, par exemple, pour en dire certaines. Et après, je dirais, il faut vraiment revenir à la question de digital labor comme une espèce de ruse théorique pour recentrer sur le travail, pour revenir à la question du travail et pour voir que le travail, finalement, s'est glissé dans toute dans tous les interstices, dans tous les creux de notre activité. Notre activité aujourd'hui est dominée par des activités qui sont toujours ambiguës. On n'arrive pas à les qualifier. On se réveille le matin, avant même de prendre un premier café, on relève le mail et on regarde ce qui se passe sur Facebook. Ou alors, dans les creux de nos activités, par exemple, pendant qu'on mange, ou pour ceux qui pratiquent le quantified self, même pendant qu'on dort, ou on s'adonne à d'autres activités, on est en train de produire de la valeur. À quel moment s'arrête la vie professionnelle, le temps de travail, et à quel moment commence le temps de vie?
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Qu'est-ce que le digital labor? D'ailleurs, il n'est pas encore traduit en français. Antonio Casilli est notre invité. Il coécrit, même si c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait le dire, puisque c'est le fruit d'un dialogue organisé par l'INA avec Dominique Cardon. Cet ouvrage qui nous sert de base de discussion. Je voudrais prolonger la réflexion et la question de Michel Lallemand, qui est aujourd'hui autour de la table avec nous, Antonio Casilli, sur cette question de la transformation d'Internet ou de l'image d'Internet, parce que c'est précisément sur ce déplacement que vous répond Dominique Cardon dans l'ouvrage, en disant que finalement cette émergence du débat autour du digital labor, qui émerge pour le coup, est liée au renversement de Internet aux yeux de certains intellectuels. Parce que pendant très longtemps, Internet a été présenté comme un outil d'émancipation. Et là, comme vous nous le dites très bien, tous ces travailleurs d'Internet, d'ailleurs, que nous sommes pour certains d'entre nous, que nous ne sommes pas pour d'autres, mais qui sont des usagers du net avec cette idée de travail invisible, sont peut-être le signe de l'émergence d'une nouvelle working class ou d'un nouveau prolétariat. Donc il faudrait s'organiser. Et donc, d'une certaine façon, d'un outil d'émancipation, Internet devient un instrument d'aliénation. Et Dominique Cardon vous dit, oui, mais c'est comme si le digital labor était le symptôme d'un renversement du débat intellectuel sur Internet, et peut-être même d'une nouvelle lecture économique des pratiques numériques. Alors, pour pas aller trop vite sur cette remarque-là, j'aimerais vous entendre sur cette question, Antonio Casilli.
Alors, il faut aussi donc revenir à ce livre structuré, vous le définissez comme un dialogue, moi je le définis plutôt comme une controversia moyenâgeuse. Il faut s'imaginer vraiment deux moins qui se disputent à propos de ce
disputatio.
Sujet. Voilà, disputatio. Donc, de fait, il y a cet effet de thèse-antithèse et un essai de synthèse. Donc, ce que je cherche à faire à la fin du livre, c'est justement de démonter l'argumentaire de Dominique Cardon, d'abord en montrant que ce n'est pas une nouveauté. Le fait de voir ce type de tension, certains les définissent pessimistes, moi je les définis critiques vis-à-vis d'Internet, que depuis les années 90, on est face, si vous voulez, à deux âmes. L'âme qui est très linéaire, positiviste, qui dit que information will find its way, l'information va toujours triompher, et que la technique est toujours géniale, et qui apporte tout un ensemble de libération, et d'autres personnes qui disent non, attention, cela dépend évidemment de l'usage social et de l'usage politique qu'on fait de ces techniques-là. Et donc, dans la mesure où ces deux tensions ont toujours existé, je pense que c'est une critique qui n'est pas fondée, de dire que c'est une nouveauté, cette espèce de nouvelle critique d'Internet. Or, l'autre question est que, et ça encore, je m'efforce de le dire, est que ce n'est pas une histoire d'intellectuels, ce n'est pas les intellectuels qui ont changé d'avis, c'est plutôt tout un ensemble de combats, de luttes véritable autour du numérique et des droits des utilisateurs en tant que producteurs de valeur sur les grandes plateformes numériques qui s'est manifesté dans le courant des dernières années. Et ce qu'on voit par exemple, on parlait de ce qui s'était passé récemment hier en fait en Belgique, mais si on revient en 2014, on voit que par exemple Facebook a fait l'objet d'une énorme class action, donc d'un recours collectif européen de 25 000 utilisateurs qui réclament chacun un montant symbolique, 500 euros chacun, en échange de toutes les données que Facebook même a utilisées. Alors, dans ce contexte-là, et après on le voit dans d'autres contextes, la grève des utilisateurs, ou comment ces manifestations s'articulent avec des manifestations physiques, par exemple des utilisateurs de Uber ou d'autres plateformes de partage social, là on voit qu'effectivement on est face à la montée d'un véritable front de revendication contre le type d'exploitation qu'on fait des données et des contenus sur les plateformes.
Oui, mais Antonio Casilli, vous renvoyez presque dos à dos, là, vous opposez plus exactement utilisateurs et intellectuels. Le digital labor, si j'ai bien compris et si j'ai bien lu ce que vous dites vous-même dans votre ouvrage, c'est un nouveau domaine de recherche.
C'est un nouveau domaine de recherche et j'insiste quand même sur le fait que le fait d'opposer l'usager ou le rôle d'usager, le rôle d'intellectuel, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. J'insiste aussi sur le fait que le digital labor, dans sa définition actuelle, sur laquelle il y a un peu de consensus au niveau international de toutes les personnes qui travaillent sur ça, est surtout reconnu comme un ensemble d'activités qui sont des activités émiettées, qui sont des activités qui ne sont pas porteuses d'énormes compétences techniques. En gros, on n'est pas en train de parler du travail des ingénieurs informatiques, des développeurs, des grands hackers, les sublimes de l'usine Internet. Au contraire, on est en train de parler vraiment des prolos de l'usine Internet. Et dans la mesure où chacun d'entre nous clique à longueur de journée et s'adonne à un ensemble de tâches qui sont des tâches qui ne sont pas rémunérées ou rémunérées très très peu, si on regarde surtout ce qui se passe par exemple dans les click farms, dans les usines à click de pays comme l'Indonésie, les Philippines, l'Inde, etc. Et là on voit qu'effectivement il y a une nouvelle économie globale en plus de l'exploitation de nos clics, de l'exploitation de nos comportements en ligne.
J'ai un petit problème avec le mot valeur quand même, parce que vous dites effectivement on clique, ça crée de la valeur, mais c'est simplement pour ceux qui peuvent utiliser toutes ces données, effectivement, une valeur qui est donnée. Je ne cherche pas, en cliquant, à travailler particulièrement ou même à gagner de l'argent. Je cherche à me renseigner, c'est tout à fait un autre domaine. Et j'ai le sentiment quand même que on pourrait aussi s'interroger sur le fait de savoir s'il est normal que précisément une valeur soit extraite et exploitée de ce que nous faisons là. C'est une activité qui n'a rien à voir avec un échange marchand, une activité de vie quotidienne, de renseignement, enfin tout ce qu'on fait avec un clic. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que de dire on va vous rémunérer, on va vous indemniser parce qu'on vous pompe vos données privées, on va vous donner un petit quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement essayer d'empêcher que ces données soient exploitées commercialement?
Et alors, c'est à ce moment-là que je m'avère être très geek et très finalement technophile, parce que je dis que le fait d'empêcher ce type d'extraction n'est pas l'enjeu principal. Ça, d'ailleurs, c'est pas une position à laquelle je me range. Et je ne me range pas non plus à une position qui voudrait que, par exemple, on rémunère à la tâche. Je publie une photo de mes enfants et c'est payé 0,5€, etc. Ça arrive déjà, malheureusement, et sur des plateformes comme Amazon Mechanical Turk et sur d'autres plateformes qui rémunèrent les posts et les contenus produits, mais ils produisent au fait véritablement vraiment une classe de prolétaires du clic ou du prolétaire du poste. Quand j'insiste sur la question de la rémunération, j'insiste plutôt sur la question de la reconnaissance sociale de cette valeur. Et que cette valeur doit être rémunérée comme une valeur, comme une contribution collective. Et que donc la rémunération doit être collective. Pour faire court et pour ne pas tomber vraiment dans l'abstraction la plus totale, ce que je propose dans le livre et ailleurs, c'est plutôt de produire, grâce à une fiscalité du numérique adaptée, fiscalité des grandes entreprises du numérique, un revenu universel de citoyenneté numérique qui serait donc versé pour récompenser, pour reconnaître la valeur produite au niveau collectif. Dans un pays comme la France, on se trouve face à un taux de pénétration d'Internet de 87% des foyers connectés. Dans un pays comme les États-Unis, c'est 95%. On est face à des taux de pénétration et de connectivité qui sont énormes et qui finalement montrent que cet effort de production de valeur, c'est pas l'effort de moi ou de toi ou de vous qui cliquez à longueur de journée, mais c'est le travail de nous. C'est un travail finalement collectif.
Michel Allemand.
Oui, je confirme. Enfin, de ce que j'en sais, mais Antonio est bien mieux placé que moi. On estime aujourd'hui que 7 Français sur 10 aujourd'hui utilisent Internet quotidiennement. Donc c'est vraiment un phénomène de grande ampleur et la réflexion que propose Antonio Casilli nous aide à avancer sur cette question-là. J'ajouterais que je suis plutôt ravi que vous fassiez, mettiez en tension effectivement des aspects positifs, négatifs, etc. pour éviter d'avoir une lecture peut-être unilatérale du phénomène étudié. Ce qui me fait penser, par exemple, qu'à Berkeley, début des années 60, les étudiants protestaient contre les ordinateurs en disant « Attention, Big Brother is back ». Puis après, ils ont changé complètement d'avis. Donc on est toujours dans ces moments où on voit l'optimisme et le pessimisme se battre en brèche. Bon. Alors, pour revenir sur la question, une des questions fondamentales que vous posez, je trouve que votre livre a cet intérêt de donner des éléments très concrets. Vous pouvez peut-être y revenir, par exemple l'histoire du turc mécanique ou l'histoire des captcha, qui illustre bien qu'est-ce que ça veut dire en fait ces enjeux de captation de valeur et dont on n'a pas conscience lorsqu'on utilise Internet.
Alors mais, MK turc et les captcha déjà.
Captcha, oui. Et puis juste je finis la question liée à cela. On voit bien que là effectivement ça illustre vraiment parfaitement votre thèse. Mais en même temps est-ce que c'est possible de mettre dans un même espace de compréhension le fait de cliquer un like sur Facebook et puis de travailler dans un turc mécanique. Voilà, vous voyez, donc on a le sentiment que vous mettez tout dans un même sac, alors qu'à mon avis, on aurait peut-être intérêt à séparer les choses.
Alors moi,
je
vais m'efforcer de répondre à la question sur le turc mécanique pour montrer effectivement qu'on a intérêt à le mettre dans le même panier et de montrer qu'il y a une continuité entre ce qui se passe sur une plateforme comme Amazon Mechanical Turk. Donc le nom l'indique, c'est Amazon, le géant d'Internet, qui a créé ce marketplace, marché de micro-tâches, de micro-travail, on l'appelle comme ça. Pourquoi l'idée du Mechanical Turk ? Donc le Turc mécanique, c'est un peu une légende du 18e, 19e siècle. C'était un automate, joueur d'échecs, qui avait défié, soi-disant, les grands d'Europe, le roi de Prusse, Napoléon même, aurait joué contre le joueur, donc qui était un robot déguisé en Turc, et qui jouait aux échecs. Et il s'avère, la légende veut, que, au fait, c'était pas un automate du tout, mais au contraire, à l'intérieur du dispositif, il y avait, certains disent, un nain, certains disent une personne amputée, qui au fait activait les échecs. Or, cette métaphore, ou plutôt cette légende, fournit la métaphore sur laquelle Amazon se base pour inventer un service, il y a plusieurs années désormais, qui est fait de la artificial intelligence, donc de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que nos intelligences artificielles sont mauvaises à réaliser certaines tâches. Par exemple, la reconnaissance faciale, par exemple, la reconnaissance textuelle à certains endroits, par exemple, je sais pas, le fait d'organiser une playlist. Nos intelligences artificielles ne sont pas performantes. Et elles sont
pas encore.
Mais justement. Et donc, comme elles ne sont pas encore performantes, on demande à 100, 200, 3000, 10 000, 15 000 personnes de réaliser la tâche que la machine n'est pas capable de réaliser. Êtes-vous capable de, je sais pas, organiser 15 morceaux dans une playlist et de dire que c'est une playlist musique joyeuse? Pour vous, c'est anodin, et pour une machine, c'est extrêmement difficile. Donc, on demande de réaliser ces tâches-là à des communauté d'utilisateurs, et ces communautés d'utilisateurs sont rémunérées avec des micropaiements, 0,05 centimes pour chaque morceau rangé ou tagué ou vidéo regardée ou commentaire laissé. Or le fait est que ce qui se passe sur ces plateformes et qui est micro rémunéré montre une similarité total, absolu, avec ce qui se passe sur les plateformes sociales. Ça, je l'ai dit au début. Effectivement, il y a une énorme continuité entre, le clic sur Mechanical Turk et le clic sur Facebook, YouTube, etc., dans la mesure où nos clics aussi, par exemple, participent non seulement à cette production de valeur, mais aussi à cette activité que certains définiraient comme l'entraînement des algorithmes. En gros, on est en train d'aider les machines à réaliser mieux ce qu'elles ne sont pas encore capables de réaliser aujourd'hui. Et pour venir au deuxième exemple, et donc à la deuxième partie de votre question, ceci se passe aussi avec ce dispositif qu'on connaît comme ReCAPTCHA. ReCAPTCHA, pour les utilisateurs d'Internet, c'est en gros cet écran qui s'affiche à chaque fois que vous cherchez, par exemple, à récupérer votre mot de passe ou à laisser un commentaire sur un blog et qui vous dit, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas un robot. Il vous dit ça, mais c'est une ruse, au fait, parce qu'au fait, ce qu'il vous propose, c'est de reconnaître deux mots qui sont un peu difficiles à lire et qui, en gros, sont deux mots tirés, la plupart des cas, de Google Books ou parfois de Google Street View. Enfin, on aide les algorithmes de reconnaissance textuelle de ces plateformes à faire leur travail. Donc, en gros, on est en train de coopérer avec ces plateformes, on est en train de produire de la valeur à la place même des algorithmes, et je reviens aussi sur la question que je citais, on est en train d'entraîner ces algorithmes. Et si vous voulez, de mon point de vue, le travail d'entraîneur d'algorithmes, c'est le métier du futur. C'est ce qui se passera, au fait, si on continue effectivement à aider les machines à réaliser certaines tâches à notre place.
Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même garder la distinction de l'acte volontaire, du travail volontaire, et du fait d'être pris comme ça sur le vif, involontairement, dans sa vie professionnelle ou privée ?
La question de la volonté sollicités par les producteurs, effectivement, et les concepteurs de ces plateformes, et c'est clair, c'est une question importante. En même temps, je dirais qu'il ne faut pas considérer le fait que, par exemple, pour vous, il s'agisse d'un acte volontaire, il ne faut pas s'imaginer que pour le reste du monde...
C'est plutôt intentionnel, c'est-à-dire que, bon, moi, je veux bien être entraîneur de ce qu'on voudra.
D'algorithme.
D'algorithme, par exemple.
Mais bon, il vaut mieux commencer par connaître le mot.
Ouais. Alors, je dirais qu'il y a un glissement vraiment important de notre paradigme d'Internet des dernières années. L'Internet qu'on a connu jusque-là est ce que je définis dans le livre aussi comme un Internet de publication. Un Internet dans lequel la volonté de l'usager est constamment sollicitée. Veux-tu publier tel texte? Veux-tu me dire ce que tu es en train de faire? Ou alors publier cette photo et ainsi de suite. On est en train de passer à un autre Internet, un autre paradigme Internet que je définirais comme un Internet d'émission. Un Internet d'émission, bah, c'est celui justement des dispositifs mobiles, c'est celui de l'Internet des objets connectés, des villes intelligentes dans lesquelles finalement notre frigo dialogue avec notre thermostat, qui dialogue avec notre four, et notre volonté dans ce contexte-là est beaucoup moins sollicitée. Mais pourtant, notre effort de producteur est toujours sollicité. Le fait de se balader avec un smartphone toujours dans sa poche est en gros notre travail actuel. Et de l'autre côté, effectivement, notre volonté semble être moins prise en compte, bah, parce que justement, on se passe même de notre volonté dans ce contexte-là.
Michel Lallemand.
Alors, pour prolonger cette question-là, est-ce qu'en en mettant la focale sur cette dimension-là, donc je comprends bien toute la légitimité, il n'y a pas, vous savez, la stratégie de recherche sous le lampadaire, quoi, et en laissant de côté quand même des enjeux d'émancipation qui demeurent forts liés à Internet. Je pense, par exemple, tout mouvement d'open design aujourd'hui, c'est un mouvement qui promeut l'échange gratuit de connaissances. Et ça passe fondamentalement par Internet, et on est complètement en dehors des schémas que vous décrivez dans votre ouvrage. Et ça, vous ne l'évoquez pas du tout.
Oui, ou aussi, j'ai sous les yeux un article de Libération hier qui a fait vraiment quatre pages sur ce nouveau texte présenté par Emmanuel Macron, et ils sont allés voir ce que vous avez fait dans votre ouvrage, Michel Lallemand, dans l'Est parisien, un repère de mutins numériques. Les mutins numériques qui disent le CDI, ça n'est pas l'avenir du travail, un métier, ça doit d'abord être une passion, pas un statut. On retrouve votre ouvrage, Michel Lallemand. On est parti, disent-ils, d'une triple observation. D'abord, les moyens de communication font qu'on peut travailler partout. Ensuite, la crise économique a rendu le salariat moins protecteur. Et enfin, les gens cherchent désormais à mettre du sens dans leur boulot. C'est cette lame de fond qui a poussé au développement du nombre d'indépendants. Voilà, les mutins numériques, oui. C'est une vague d'émancipation.
Tout à fait. Et ça rassemble, cet article rassemble une pochette pour votre livre. C'est génial. On se demande d'ailleurs. Bon, non, mais je dirais que les deux raisonnements ne sont pas incompatibles. Au contraire, j'insisterai sur le fait que ces mouvements d'émancipation sont aussi des mouvements, des grands élans de générosité des producteurs d'Internet qui sont par contre capturés par les géants d'Internet. Là, on est face à un énorme dispositif de captation de la valeur, de captation de la générosité, de captation de l'effort d'émancipation. Les deux choses ne sont pas incompatibles. Au contraire, le fait d'insister sur le digital libre est aussi une manière d'insister sur les tensions, sur cette rupture douloureuse qui s'annonce, malgré ses bonnes intentions.
Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5.
Antonio Casilli, vous nous avez fait plusieurs propositions musicales et vous nous avez dit, en choisissant notamment Dolly Parton, que c'était la proposition sans doute la plus décalée. Pourquoi cette musique ?
Alors, décalé par rapport à mes goûts qui sont plutôt orientés vers du gros punk industriel, bon, enfin. Mais de l'autre côté, je pensais décalé, et c'était intéressant cette chanson-là, parce que c'est une chanson d'une époque révolue dans laquelle on pouvait travailler 8 heures par jour et le reste du temps s'adonner à d'autres activités, genre s'amuser ou se reposer. Aujourd'hui, le contexte n'est plus celui des 3 fois 8, mais des 3 fois 24, c'est-à-dire qu'on est constamment en train de travailler, mais aussi nous éduquer, nous informer et nous reposer un peu. Et donc, dans le contexte contexte actuel, on parle de digital labor, mais certains parlent aussi de hyper-emploi, le fait que l'emploi, et plutôt le travail, est partout.
Qu'est-ce que le digital labor? Dominique Cardon, Antonio Casilli, c'est un livre donc édité par Lina. Je rappelle votre titre également, Michel Lallemand, L'âge du fer, hacking, travail, anarchie. Et ça, c'était publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de la Grande Table. Merci à toute l'équipe, Raphaël Bourgois, Jeanne Aléos, Clémence Marie, Henri Leblanc, Camille Ferret et Philippe Bourgois. À la technique aujourd'hui, c'était David Federman.